Génération Covid.
Portrait d'été. Laurence Froidevaux.
Salut Jessie, je suis bien arrivée à Vevey, je suis en train de marcher vers ton institution, là on a rendez-vous, je propose qu'on aille ensuite toutes les deux ensemble au bord du lac, là où t'as envie que l'interview se déroule. Je suis un peu émue en fait, je suis un peu déstabilisée, c'est mon première interview avec une personne en chaise roulante et je suis en train de me dire, je me rends compte qu'on vous entend pas souvent dans les médias, j'espère que je vais être à la hauteur, je me réjouis de te rencontrer en tout cas. À tout de suite.
Comment les jeunes ont-ils vécu cette année de pandémie? 10 témoignages pour raconter leur parcours et leurs rêves. Jusqu'à 15h sur la première.
Je m'appelle Jessie, j'ai 20 ans. J'adore la lecture et les séries télé. J'aime échanger avec les gens, les animaux, ma famille. Je suis très sensible.
Tu m'as donné rendez-vous ici, au bord du lac, à Vevey. C'est magnifique. On a un petit peu de vent. Il y a des gens qui passent, on entend des gamins, il y a les montagnes. Le lac est très très bleu aujourd'hui. J'aimerais savoir pourquoi, Jessie, tu m'as donné rendez-vous ici.
Parce que c'est un lieu où j'adore me promener avec ma famille, mes amis. Il me rappelle la plage où on ne peut pas aller actuellement. C'est vraiment... familial et un coin vacancier duquel on n'a pas besoin de partir longtemps de chez soi pour y accéder. Donc ouais, pour moi c'est vraiment l'endroit idéal et la journée idéale surtout, parce qu'avec le temps c'était pas gagné, mais la journée idéale pour le faire.
C'est un endroit qui est facilement accessible ici pour toi? Comment tu viens?
Je viens à pied, accompagnée de proches ou de ma famille.
Donc tu viens avec ton fauteuil?
C'est ça. C'est facilement accessible, mais il faut faire attention aux racines des arbres, au passage piéton. Et voilà.
Pour faire un peu connaissance avec toi, Jessie, donc tu as 20 ans. Ah, il y a un avion qui survole le lac. Tu as toujours été en chaise roulante?
Alors, toujours plus ou moins. Je marche aussi avec un rollator ou des cannes. Mais pour les activités assises, je préfère... c'est mieux d'avoir un vieil fauteuil roulant. Donc ce fauteuil dans lequel je suis actuellement, je l'ai depuis 3 ans. Il a un mode électrique et il peut aussi bien être en manuel, ce qui est assez pratique dans les endroits étroits. Et pour le mode électrique, ça évite du coup aux personnes de devoir me pousser dans les pentes ou les chemins un peu trop compliqués à pousser en manuel.
Tu l'aimes bien ce fauteuil? T'y es attaché?
Je ne sais pas si attaché serait le bon terme, parce que c'est des fois une prison plutôt qu'une aide. Mais en tout cas, s'il n'était pas là, je ne sais pas ce que je ferais.
On est là avec toi aujourd'hui, Jessie, parce qu'on fait sur la première 10 portraits de jeunes pour savoir comment les jeunes d'aujourd'hui ont notamment traversé cette période Covid, cette période particulière pour tout le monde, parce qu'on s'est dit qu'on ne vous avait pas beaucoup entendu, en fait, vous les jeunes, et que peut-être que si on a toutes et tous souffert de la pandémie, peut-être que pour vous les jeunes, ça avait été particulier ou particulièrement ardu. Comment ça s'est passé pour toi, Jessie, depuis le mois de mars 2020? Qu'est-ce que tu as traversé?
Alors je dirais pour les jeunes une chose, mais pour les personnes en situation de handicap, c'est encore plus, parce que on est tous considérés jeunes comme vieux, comme personnes à risque, donc tous doivent suivre les mêmes consignes pour notre bien entendu, mais qui étaient parfois un peu lourdes, notamment la distance quasiment complète avec nos familles. À moins de les voir à travers une vitre, ou heureusement, comme on a la chance aujourd'hui, comparé à il y a plusieurs années en arrière, on a heureusement le téléphone et la possibilité de faire des appels vidéo, mais ça remplacera jamais les vrais contacts, les liens. Et pour moi, qui suis très attachée justement à mes contacts sociaux, amis, famille, même si j'étais entourée d'une certaine manière par les personnes qui m'aident, je pense que ça aurait été un peu plus facile à accepter, en tout cas au début du Covid. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais au début du Covid, ce serait peut-être passé de manière plus rapide si, en paradoxal, on avait pu au moins être plus près de nos proches.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour toi, Jessie, donc tu avais 19 ans l'année dernière, quand la pandémie a été déclarée partout dans le monde. Tu vis dans une institution pour personnes handicapées. Ça veut dire que vous avez été vraiment éloignés les uns des autres par mesure de sécurité, parce que considérés comme plus fragiles.
C'était comme ça pour toutes les institutions. Je n'en nommerai pas une plus qu'une autre, mais en tout cas, c'était comme ça. Et pour moi, compliqué dans la mesure où, oui, je voyais les personnes autour de moi tomber malades, être moins bien, ou alors simplement être tristes, en manque de leur famille, et puis de savoir qu'on ne pouvait pas se toucher ou avoir un geste affectif pour se soutenir dans cette période difficile, mais c'était dur.
Mais très concrètement, ça veut dire que ta maman, par exemple, n'a pas pu venir te voir pendant un certain temps ?
Oui, que ce soit elle ou d'autres personnes de ma famille. Donc on avait heureusement les appels vidéo et les appels normaux, mais ça remplacera jamais un véritable contact. Autant il y avait des moments vraiment d'angoisse où j'avais l'impression de me retrouver dans un hôpital, même en étant seulement chez moi, à voir les personnes que j'avais d'abord connues en arrivant avec leurs sourires, leurs habits civils, vêtus comme des infirmiers, infirmières, avec des masques et courir un peu partout. Des gens qui devaient être absents au moindre symptôme, donc pas mal de gens qui ont tourné, mais toujours là, avec un minimum de sourire, même à travers le masque, prêt à rendre ce nouveau quotidien bizarre le plus agréable pour nous. J'ai aussi fait de belles rencontres grâce à ça, où je me dis que malgré tout, je ne les aurais peut-être pas faites s'il n'y avait pas eu ça. Donc quelque part, je suis reconnaissante pour ça. Et sinon, il y avait vraiment des moments agréables où on a vu qu'on était tous confinés ensemble. Même s'il n'y avait plus d'activité, les accompagnants faisaient quand même en sorte qu'on puisse faire des choses, comme par exemple, on s'est mis à écrire un conte pour Pâques. Et beaucoup écrire aussi, en même temps que la lecture, mais j'arrive un peu moins à le faire par manque d'imagination. On s'est tous mis autour de mon ordinateur et puis j'ai commencé à taper une histoire complètement loufoque sur justement mon lieu de vie qui partait à l'aventure pour combattre ce Covid en fait. Avec du sirop, des casseroles, on venait tous avec nos rollators et fauteuils roulants supersoniques et magiques. Et c'était vraiment hyper marrant à écrire comme histoire. Puis ça faisait partie justement des choses qu'on n'aurait pas fait ou peut-être moins pensé à faire s'il n'y avait pas eu ça. Donc même si ça n'a vraiment pas été facile tous les jours, autant pour les résidents que pour les personnes soignantes qui se sont occupées de nous, on aurait pu avoir pire, je pense.
Tu es quelqu'un, toi, Jessie, qui essaye toujours de voir les choses du bon côté, malgré tout ?
C'est pas évident. C'est pas évident du tout tous les jours. Et même pour des petites choses, c'est un peu mitigé. J'ai plutôt tendance autant à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein.
Alors, qu'est-ce qui t'a permis à toi, Jessie, dans cette période vraiment compliquée où on était tous privés les uns des autres et de contact et d'amitié et d'amour et de tendresse et de gestes, est-ce qu'il y a des petits trucs qui t'ont aidé à tenir ?
Bien, mes deux passions, comme cité au début, les séries télé et les livres, beaucoup aidé dans la mesure où les livres, c'est vraiment pour moi, je trouve, en étant en situation de handicap, un moyen extraordinaire de voyager. Vraiment d'un monde à l'autre, littéralement. Et les séries télé, parce que je retrouvais des amis que je n'avais pas l'occasion de voir autrement. Je les considère comme tels dans la mesure où, peu importe le nombre de saisons qu'il y ait, c'est des personnes qu'on se dit qu'on va côtoyer 45 minutes, une heure de temps par jour dans nos... Peut-être pas par jour, mais de temps dans notre vie. Et qui nous aident un peu à sortir dans des périodes comme ça, je trouve bien de dire qu'il y avait d'autres, un peu d'autres choses, d'autres contextes pour évacuer un peu toute cette tension ambiante.
Tu arrives bien, toi, Jessie, à t'évader. Tu fais recours à ton imaginaire, ton imagination, justement, peut-être dans des moments difficiles, vu que tu adores lire et regarder des séries, notamment.
C'est compliqué. Quand je me sens vraiment submergée par les émotions, j'ai de la peine à y faire abstraction, à penser à d'autres choses. Et même si j'essaye de penser à d'autres choses, ça revient un peu de temps après. Mais la plupart du temps, oui, j'arrive à m'évader, à vraiment avoir l'impression, bon, pas d'être dans la série parce qu'on voit les décors, les personnages, mais pour ce qui est des livres, je me vois vraiment dedans et je vois vraiment concrètement le personnage. Ce que je trouve le plus drôle d'ailleurs, c'est de lire des livres, il peut y avoir des personnages tirant de films ou de séries par exemple, et d'entendre les voix de ces personnages qu'on a connus à travers les films pendant que je lis. Je trouve ça assez génial.
Puisqu'on parle de livres et de séries, Jessie, il y a une question qui se pose beaucoup en ce moment, c'est la question de la représentativité de toutes les personnes de la société, notamment dans les séries, dans les livres, au cinéma, etc. Est-ce que tu as l'impression, toi, que dans les séries, les personnes comme toi, en situation de handicap, sont suffisamment représentées? Est-ce que tu arrives à te voir dans les séries ou dans la littérature?
Peut-être pas assez. Même si... depuis quelques temps, alors c'est sûr que c'est pas le genre de série que je regarde parce que ça me rappellerait beaucoup de trop, entre guillemets, mauvais souvenirs, notamment les séries dans les hôpitaux, Grey's Anatomy, les bracelets rouges, où on voit une ou deux personnes en fauteuil roulant, qui m'a d'ailleurs assez marqué de voir ça. Ça commence petit à petit à se montrer, mais sinon, non, je trouve que on est de nouveau pas assez montré, ou alors seulement si une personne a eu un accident. Mais ça veut dire que c'était une personne valide juste avant la scène où elle est montrée après son accident ou sa chute. Donc je trouve un peu dommage de parfois attendre seulement ces moments-là pour montrer les personnes handicapées qui, je trouve, auraient autant leur place qu'un acteur, actrice complètement valide.
Génération Covid, les jeunes face au virus.
Ok, je sais c'est l'été, il fait beau et chaud. Souvent dans ces moments là-bas on la met très haut. Mais les angoisses ne dépendent pas de la météo. J'ai peur de pas avoir assez profité. C'est ce que les vieux me répètent tout le temps, mais au fond ça met la pression. Et c'est quand les discussions sont terminées que je trouve les meilleures questions. La vie est cruelle, ouais. La tartine tombe toujours sur le côté de la confiture. Faudrait que j'arrête, ouais. Mais plus je veux arrêter, plus je continue. Des problèmes, j'en ai des tas, j'en ai des monticules. Comme un ordinateur qui se reconfigure. Combien de mots on laisse pourrir sur les commissures. Et surtout nos plaisirs, combien on simule. Au fond c'est si dur. Mais pourquoi je pense à ça sur mon transat? Je suis peut-être trop honnête, je crois. Je vais tremper mes problèmes dans le fond d'une citronnade,
hey. Chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande. Faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent, 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 dansent. Faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent, 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 dansent.
Au milieu de l'après-midi me viennent les questionnements que j'ai tard dans la nuit. C'est quoi dans mon cocktail? Dis-moi, un petit parasol ou un parapluie? Est-ce que je suis fier de moi? Je crois, après le début vient le déclin. J'ai jamais su faire de choix, tu vois. Mais pas en faire, c'est comme en faire un. Non, ça fait des mois que je fais plus de rencontres. À part des inconnus sur le trottoir de ma ville. Le temps file et je vois plus grand monde. Je veux pas tourner en rond dans mon cercle d'amis. Trop terre à terre pour une thérapie. Plus proche de Palavas que de Miami. Au milieu de ces gens, moi j'ai jamais su me placer. Je m'ennuie tellement, c'est le temps qui me regarde passer. Je déteste les esclaves des apparences. Je m'entête et puis j'entasse sur la balance. Les fresques des fantasmes, pas la chance. Quand est-ce que nos angoisses prennent des vacances? Silence. Un jour j'aurai raison comme Galilée. Je vais aller prendre du sable sur la plage pour le remettre dans mon sablier.
Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande.
Faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent, 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 dansent. Faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent, 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 dansent.
J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil. Un coup de blues ou un coup de soleil. J'ai pris un coup de blues ou un coup de soleil.
Jesse, on est toujours au bord du lac, à Vevey. Il fait beau. T'as pas froid, t'es bien ?
Non, ça va.
Okay. On est en t-shirt, toutes les deux.
En même temps, je suis assez contente qu'on ait pu enfin les sortir, parce que ces derniers temps, avec les changements de température et les pluies, c'était le temps qu'il arrive un peu cet été quand même.
C'est vrai que c'est assez pénible. Il y a un bateau là qui passe. Attends, tu vas le voir arriver. Et je me demandais si tu étais déjà montée sur un bateau.
Oui, sur le bateau de la CJN, entre autres.
Les tout gros.
Oui, ouais. Et puis sinon, j'aime beaucoup faire du catamaran aussi. Où on peut, mais je crois qu'on peut être qu'un seul fauteuil sur ce bateau. Et sinon, on peut être couché sur le filet. C'est très sympa aussi.
T'as pas peur de l'eau ?
Alors, j'ai pas peur de l'eau. Je l'adorais quand j'étais petite. Par contre, je me sentirais plus en sécurité de nager dedans. Surtout dans le lac où on n'a pas à pied.
Mais si t'as des bouées ou un gilet de sauvetage ou quelque chose, la tirer dans l'eau ou pas trop ?
Oui, mais pour avoir longtemps appris à nager sans rien, de me dire de me retrouver avec un gilet ou des bouées, de me sentir en guillemets enfermée, ça me conviendrait pas non plus. Puis même, j'aime plus.
Mm-hmm. Jessie, 20 ans, on est ensemble ici pour faire ton portrait dans Génération Covid. Tu nous as raconté précédemment comment t'avais vécu cette période de pandémie, pas toute simple. Comme on est à la radio, et c'est très bien, et pas à la télé, on va essayer de donner quelques images. Est-ce que tu peux te décrire, et tu commences par ce que tu veux, ça peut être tes ongles roses, ouais, te décrire toi, ton look, tes fringues, ce que t'aimes.
Alors je suis brune, avec des yeux bleus, je porte des lunettes violettes, et j'aime énormément me faire les ongles. Là actuellement ils sont roses, framboises foncées et roses pailletées. Et je porte un t-shirt rose et bleu rayé blanc, ou l'inverse, je ne sais jamais dans quel sens le dire. Et un leggings gris, avec des ballerines crème.
Des bijoux, un joli sac rouge.
Les bracelets que je porte là sont des bracelets qu'on m'a mis une fois et qui se détachent pas forcément. Et sinon, j'ai cette bague qui me vient de ma maman. Et puis voilà.
Quelle importance tu attaches aux vêtements, à l'apparence, au regard des uns et des autres?
C'est compliqué comme question. J'ai beaucoup de peine à me trouver jolie. Et je trouve que porter des choses qui me paraissent jolies, comme par exemple des ballerines, tout en sachant que ce sera compliqué pour moi de porter ce genre de chaussures au niveau de la démarche, et bien de me dire que je porte des choses que je trouve jolies sur moi-même, que je trouve un peu moins. Mais du coup, je trouve que ça compense et ça m'aide à trouver jolie ce que je ne trouve pas.
T'as beaucoup de vêtements dans ton armoire, beaucoup de chaussures. Moi, je te trouve plutôt féminine.
Je me suis toujours dit, c'est soit je suis fille, soit je ne le suis pas. Et j'ai toujours été très attirée par le rose, les paillettes, tout ce qui est très girly, quoi.
Tu aimes te maquiller, te coiffer ?
Alors, coiffer, maquiller, c'est compliqué. Au niveau des gestes, j'ai très peu de dextérité, donc du coup, c'est toujours quelqu'un qui doit les faire pour moi. Les coiffures, on m'en faisait. Là, j'ai les cheveux un peu plus courts, donc je les fais moins. Et pour ce qui est du maquillage, vu que je pleure facilement, le mascara risque de couler plus facilement, donc à quoi bon en mettre? Et surtout, actuellement, vu qu'on porte le masque, je trouve un peu moins d'intérêt d'en mettre, donc plus forcément. Mais je suis... Et même sans ça, de base, j'ai jamais tellement été une fan de maquillage. Et voilà.
Déjà, merci de partager tout ça avec nous, Jessie. Effectivement, on a assez peu parlé de ton handicap. Enfin, tu as raconté que tu pouvais marcher avec des cannes ou un rollator. Là, on se rencontre toutes les deux, puis on va passer du temps ensemble. Donc, tu es venue en chaise roulante. Moi, je me rends pas bien compte quand je te vois ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu parlais d'appréhension. Effectivement, tu peux tout à fait prendre ton verre toi-même et boire. Mais qu'est-ce que tu peux faire et ne pas faire ?
Je ne peux pas sauter. Ou 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 la phrase qu'on m'a souvent, sans vouloir être méchant, hein, mais la phrase que j'ai observée qu'on la sortait à beaucoup de personnes en situation de handicap, c'est « Je t'en prie, assieds-toi », alors qu'on est en fauteuil. Et donc je peux m'asseoir, ben, comme tu le vois, Laurence, mais du coup, pas sur une chaise normale. Et pourquoi pas sur une chaise normale? Eh bien, c'est entre autres parce que je me suis fait opérer d'une scoliose quand j'avais 12 ans. Ce qui me rend la colonne jusqu'au bassin complètement rigide. Et si je m'assois sur une chaise comme il y en a autour de nous ici, ben, ça me ferait vite mal. Ou alors sur un banc, ben, je pourrais tomber en arrière parce que j'ai de la peine au niveau de mon tonus à me tenir en avant. Ce que je peux faire, ben, je peux parler. Je peux rigoler, lire, comprendre une conversation, pas la politique, mais toute conversation, et puis voilà.
T'arrives à nous raconter, tu as parlé du milieu hospitalier tout à l'heure, tu parlais notamment des séries télé, t'as dit « Ah, les séries télé qui se passent dans le milieu hospitalier, bof, ça me fait pas trop envie ». Est-ce que toi, tu as passé beaucoup de temps à l'hôpital depuis que tu es petite, Jessie ?
Alors, je pense que dans mon enfance, j'ai dû passer presque tous les mois pour jamais rien de... Comment dire ? J'ai eu seulement 2 opérations, mais autour de ces opérations, j'ai dû passer beaucoup d'examens neurologiques comme des radios. Et donc, du coup, j'y allais quasiment, je pense, chaque mois. Et c'est vrai que ça a fait tellement partie de ma vie, du début de ma vie, qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai très peur d'y retourner. Surtout de savoir que finalement on se retrouve seul en fait à l'hôpital, surtout à partir du moment qu'on est adulte, les enfants, d'autres enfants que moi s'y retrouveraient aussi, mais dans mon cas j'ai toujours été accompagnée, et de me dire que je pourrais m'y retrouver seule parce qu'il m'arriverait quoi que ce soit, ça me fait très peur en fait. J'y suis déjà tellement allée que pour moi j'ai pas besoin et envie non plus de me remettre quelque chose, surtout si c'est pour me vider la tête. J'ai pas envie de me vider la tête dans quelque chose qui m'a entre guillemets marquée.
Ouais, donc les séries sur le milieu hospitalier, non merci. Parce qu'il faut quand même dire une chose, si moi je le sais parce qu'on a fait connaissance quand même assez longuement au téléphone avant que je vienne te rencontrer, tiens je te donne ton effroi, c'est que t'es quand même une sacrée battante, t'es une miraculée, la jeune femme charmante et intelligente que j'ai devant moi, parfaitement articulée, qui réfléchit, qui se marre.
Articulée, je ne suis pas
si.
Un robot.
Tu n'es pas un robot, c'est vrai, mais cette jeune fille de 20 ans aujourd'hui a dû beaucoup se battre. Tu es née très en avance, je crois, et puis tu n'avais pas beaucoup de chance déployer.
De m'en sortir très clairement. Avec ma mère, nous avons failli mourir. Et ça a été très délicat comme situation. Je me rappelle plus exactement des termes, des circonstances, mais en tout cas, ouais, on a failli ne pas pouvoir s'en sortir, et surtout, j'ai failli ne pas pouvoir être comme je suis maintenant. Donc, même si, bien sûr, mon handicap me bloque dans beaucoup de choses, surtout depuis que je me suis opérée de mon dos. Peut-être que si j'avais pas ces tiges, je pourrais faire plus de choses. Mais même si cet handicap-là me bloque, je pense toujours à d'autres handicaps beaucoup plus lourds, où je me dis mais que de toute façon il peut toujours y avoir pire que ce qu'on a, et je suis reconnaissante que ce handicap me permette malgré tout d'avoir un semblant de vie normale, une relation sociale, et voilà, de pouvoir faire part à cette vie tout simplement. Je suis née à 28 semaines et donc on m'a clairement diagnostiqué légume, donc qui ne pourrait pas parler, qui ne pourrait pas marcher. J'avais déjà une malformation des poumons, mais j'ai heureusement pu réussir à faire face sans avoir recours à des machines. Aujourd'hui, je parle, je respire normalement. Et j'ai eu une mère extrêmement combative qui a tout de suite dit au médecin « Je vous entends, mais je ne vous écoute pas. » Et qui a toujours fait son possible. D'ailleurs, je lui fais un coucou si elle passe par là. Qui a toujours et qui fait encore aujourd'hui toujours son possible pour me donner le maximum, me permettre d'avoir une vie la plus chouette possible. Ouais, je ne te remercierai jamais assez pour ça.
Tu dis que ta maman est très combative. Quels adjectifs tu donnerais pour toi, Jessie ?
Je dirais aussi combative et indépendante, même si dans mon cas, je me dis qu'indépendante, c'est paradoxal quand on sait que physiquement, je peux difficilement l'être. Mais je suis indépendante dans mes pensées, mes idées.
Comment tu définirais ton caractère ? Moi, j'ai l'impression que tu as pas mal de personnalités.
Sensible. Gentille. patiente. De la peine à être bienveillante avec moi-même.
Génération Covid, portrait d'été sur la première.
On est toujours en compagnie de Jessie, 20 ans, dans Génération Covid. Jessie, ma chère Jessie, tu as un sac à main rouge, tout à fait joli sur les genoux. Est-ce que tu es d'accord de me montrer ton téléphone portable? Si tu en as, elle le sort. Le voici, le voilà. Oui, avec une belle fourrure rouge pétante, comme ça tu ne le perds pas. Et alors ben voilà, on a envie d'aller voir un peu, d'aller un peu fouiller dans ton téléphone portable. Ce que tu as envie de nous montrer seulement, Jessie, d'abord ton fond d'écran. Du téléphone, c'est quoi, Jessie?
C'est Pocahontas. Je suis une fan inconditionnelle de Disney, mais particulièrement de Pocahontas. C'est vraiment un Disney qui m'a accompagnée, je pense, pendant toute mon enfance. Et je pense que c'est pas pour rien, parce qu'il fait un peu écho à mes origines. J'ai la famille du côté de mon père. Mon grand-père était des îles de la Barbade. Et j'avais une arrière-grand-mère cheyenne.
C'est marrant, parce que t'as la peau claire, Jessie.
Mais je me suis demandé si t'avais pas quelque chose de métissé quand je t'ai vue.
Alors ma mère est suisse blanche et mon père est métisse.
Ah ben voilà. Rappelle-nous en quelques mots qui est Pocahontas.
Alors c'est une princesse indienne qui va tomber amoureuse d'un blanc anglais venu à la base chercher de l'or sur les terres indiennes. Et chose qui ne devait pas arriver entre ces deux peuples différents, ils vont tomber amoureux.
Et qu'est-ce que toi tu aimes dans Pocahontas ?
J'aime sa force, sa combativité, ses longs cheveux noirs. Je la trouve extrêmement belle. Et ouais, j'ai toujours voulu avoir les cheveux aussi longs qu'elle. Ils deviennent presque, mais ce serait un petit peu compliqué, je pense, à elle.
Là, pour l'instant, t'as les cheveux bruns comme elle et t'as les cheveux aux épaules. Elle a les cheveux noirs, t'as les cheveux bruns foncés, c'est vrai. Est-ce que t'es d'accord de nous montrer ce qu'il y a un peu à l'intérieur de ce téléphone portable ? Est-ce que tu prends beaucoup de photos ? Est-ce que t'as des photos des gens que tu aimes ou des messages qui sont importants ?
Non, pas particulièrement. Ce que je pourrais par contre montrer, c'est une playlist spéciale pour Disney, pour une journée pluvieuse, parce que j'adore la pluie et j'aime bien avoir des musiques spéciales pour ça.
Alors t'as vraiment, je te regarde comme une curiosité, parce qu'il y a vraiment des gens qui aiment la pluie, ça je comprends pas.
Et ben pourtant il y en a quand même, c'est dur à trouver, mais il y en a quand même. Et j'aime la pluie tout simplement parce que ça me permet en fait de vivre mes deux hobbies sans culpabiliser en fait. Je serais très déçue évidemment s'il pleuvait et qu'on serait par exemple en train de faire cette interview ou être justement en sortie et de voir le vivre sous la pluie. Par contre, s'il fait beau, bah, je suis très contente de pouvoir vivre ces moments. Il faut pas qu'il fasse trop chaud non plus.
Donc t'as souvent de la musique en fait qui accompagne tes journées ?
Oui, tout le temps. J'en ai besoin pour me préparer. Les quelques trajets en voiture, j'aime bien. Et ouais, c'est vraiment. J'ai l'impression d'être, quand j'en écoute, d'être autant dans un autre monde, encore plus que si je lisais un livre ou une série, parce que je m'y mets. Un livre, on a vraiment les structures pour s'imaginer un monde. La musique, on n'a rien. Donc j'ai encore plus l'impression de m'évader que les livres ou les séries. Je dirais que c'est mon troisième hobby, mais que j'aurais pu tout aussi bien représenter que les deux autres.
Tu peux nous donner quelques noms d'artistes, justement, qu'on trouve dans ta playlist ?
Alors, par exemple, bon, je suis assez... Je reste assez sur la musique des années 2000, entre 2000 et 2010, parce que c'est ma génération. Donc on a par exemple Alexandra Stan avec Mr. Saxo Beat. Get Back ASAP. Et puis sinon, un petit peu compliqué de vous les citer tous, mais en gros des DJ comme Mike Candice, David Guetta. J'aime beaucoup surtout la pop et l'électro. Pour moi, quand j'écoute de la musique, j'ai besoin de pouvoir bouger, en fait. Et de pas m'endormir, si je peux dire.
T'as quel rapport avec ton téléphone portable ? T'es beaucoup dessus ? Tu fais beaucoup de messages ?
Oui et non. Je me considère pas comme une jeune geek qui passerait son temps dessus, mais c'est vrai que j'en ai quasiment tout le temps besoin. J'ai rien que pour écouter de la musique, vu que je n'écoute plus la... quasiment plus la radio, les mails, la communication avec les amis, et surtout pour YouTube également, et les réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir que j'ai une chaîne YouTube. Et donc du coup, ça, je mets en lien avec les réseaux sociaux, j'essaye d'y participer de manière la plus active possible, mais ça, j'ai beaucoup de peine à m'identifier comme de ces jeunes qui savent à fond tout comment fonctionne leur téléphone. Moi, j'ai beau avoir 20 ans, je suis... pas encore tout à fait au point avec les TikTok et Instagram, donc j'assume.
Mais c'est intéressant que tu nous parles de cette chaîne YouTube. C'est une chaîne, d'abord donne-nous peut-être son nom et où on peut la trouver, comment elle s'appelle. C'est une chaîne sur laquelle tu offres aux internautes des critiques des livres que tu as aimés. Tu racontes pourquoi tu les aimes et de quoi ça parle, c'est bien juste ?
Des livres que je lis sur le moment, des livres que j'ai aimés et où j'essaie d'en faire des critiques. À raison de une, parfois deux par semaine.
C'est beaucoup. Tu écris ce que tu vas dire ou il y a une part spontanée ?
Alors, les premières fois, donc j'ai commencé ma chaîne, C'était en juin, le 12 juin 2020, donc ça fait un an.
En pleine pandémie ?
Oui, j'ai commencé en fait grâce à une personne que j'ai connue dû à cette pandémie, une amie qui m'a fait découvrir un peu le monde des... Je connaissais YouTube évidemment de par déjà les clips tout simplement, mais c'est vraiment depuis l'année passée que j'ai découvert le monde des chaînes autres, chaînes de maquillage, j'ai commencé par exemple, et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait trouver un thème qui me correspond. Donc ce ne sera pas forcément le maquillage, mais qu'est-ce que ce serait ? Ah oui, peut-être effectivement un milieu dans lequel j'aurais envie de travailler un jour, l'édition ou l'écriture. Donc j'ai commencé à chercher, et de fil en aiguille, je suis tombée sur plein de chaînes de booktubeuses, que j'en suis énormément aujourd'hui. D'ailleurs, je vais essayer de regarder à peu près combien j'en suis à la fois. Je m'abonne à beaucoup.
Voilà, donc là, on va sur YouTube.
Je m'abonne à beaucoup de chaînes à la fois, donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense en tout cas une dizaine, si ce n'est plus.
Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Jessie, d'avoir ta propre chaîne où tu parles de livres ?
L'impression de faire partie d'une immense communauté qui, à mon sens, n'est pas encore assez connue. Dans le sens que j'ai remarqué qu'on est quand même très peu de lecteurs assidus, encore aujourd'hui. Ou alors qu'on lit sur les tablettes ou liseuses. Mais pour moi, tant que ça existera toujours, je serai toujours plus team livre-papier. Et que je trouve bien justement qu'on puisse avoir un peu ce coin qu'est YouTube, où on peut justement partager justement notre passion avec lesquelles on trouve peut-être malheureusement pas encore aujourd'hui assez de gens pour en parler.
Et alors, comme tu l'expliques bien, Jessie, pour toi, ce qui est important, c'est de partager tes lectures et puis d'avoir l'impression aussi de faire partie d'une grande communauté d'électrices et d'électeurs qui, comme toi, sont passionnés par les livres.
C'est ça. On se rencontrera peut-être pas ou très peu entre différents youtubeurs, mais au moins, ça me donne l'impression de faire partie d'une communauté, même si c'est, je vais réutiliser ce terme que pourtant je n'aime pas, mais à distance. Qui permet du coup de pouvoir échanger. Et puis, justement, c'est grâce à eux, elles, maintenant, parce qu'il y a principalement des youtubeuses, des booktubeuses femmes, surtout dans le monde de booktube. C'est surtout grâce à elles, maintenant, que je calque mes envies de lecture, voilà.
Ça te donne des idées ?
C'est ça. Quand j'ai commencé à vraiment crocher à la lecture à 13 ans, j'ai commencé par La Guerre des Clans, de Erin Hunter, une série fantasy-fiction sur les clans de chats qui se faisaient la guerre entre eux. Et c'est vraiment à partir de cette saga que j'ai dévoré les livres jeunesse, surtout la science-fiction, mais aussi quelques romans. Et s'il y a encore quelques années de ça, quand j'allais en librairie ou en FNAC faire mes emplettes, je suis, comme j'aime bien le dire, j'aime bien le shopping, mais plus livresque que pour les fringues. Quand je vais justement faire mes emplettes livresques dans ces librairies ou coins comme ça, j'aurais eu tendance il y a quelques années à y aller un peu au feeling des couvertures, parce qu'il faut savoir que je suis attirée par un livre, premièrement par sa couverture et après par son résumé. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'essaye de repérer les livres qui m'ont justement le plus attirée parmi ces vidéos que j'ai pu regarder.
Donc c'est vraiment très utile, quoi. T'as d'autres personnes qui partagent leur coup de cœur, leur coup de gueule sur des bouquins, et ça t'aide vraiment pour faire tes choix. Et c'est ce que tu essayes de partager toi aussi.
Oui, ouais, vraiment. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookhaul où j'ai 5 livres à vous présenter. On commence avec Le vrai visage de Tulip Taylor de Anna Mainwaring, j'espère que je prononce correctement son nom, publié chez La Martinière J Fiction. Je suis encore dans une phase, moi on en apprend tous les jours, mais j'ai l'impression d'être dans une phase où je n'ose pas me lancer assez à l'eau par peur de trop spoiler en fait dans le livre, dans le sens de tellement vouloir exprimer mon avis de manière forte entre guillemets, vouloir y dire beaucoup de choses, y mettre beaucoup d'émotions, que j'ai peur que ça en dise trop. Mais finalement, c'est peut-être ça la clé en fait.
Il me semble que tu n'as pas donné le nom de ta chaîne YouTube où tu fais des critiques de livres.
Tout à fait. Alors, c'est JF espace Books, B-O-O-K-S.
JF, c'est tes initiales, tout simplement.
Oui.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ton prénom, mais c'est Jessie, J-E-2-S-E, qu'on prononce à l'américaine.
Voilà, ouais, c'est ça. Mais évidemment, ça s'écrira Jess et tout le monde dit... ceux qui me connaissent bien disent Jessie et ceux que je rencontre à peine ou à qui c'est pas encore tout à fait enregistré que c'est Jessie diront Jess, mais ça se dit Jessie, voilà.
Sur la première, Génération Covid.
Pour toi, je suis l'ignorance sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages, de nuages. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu les chants d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs des chats sauvages au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs? Partageons-nous les fruits mûrs de la vie. La terre nous offre ses trésors, ses mystères. Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. Je suis fille des torrents, serre des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours, dans un cercle, une ronde à l'infini.
Jessie, t'as 20 ans, tu es le portrait du jour de Génération Covid. On est au bord du lac, toujours à Vevey, il fait un peu frais, il y a de la musique dans le bar qui est derrière nous. Tu nous as raconté pas mal de choses, d'abord comment t'avais vécu cette année un peu particulière, les livres que tu dévores, les séries. Cette série de portraits s'appelle Génération Covid. Si je te dis Génération Covid, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu t'identifies à ça ou pas du tout?
Alors, dans un sens, je dirais oui, parce que je suis arrivée en... j'existais déjà quelque part quand c'est tombé. Après, je pense que peut-être le plus juste à parler de génération Covid, c'est peut-être effectivement, oui, ceux de... les jeunes de maintenant, entre 20 ans, mais ceux auxquels je pense le plus, quand j'entendrais le mot génération Covid, ce serait surtout les enfants qui seraient nés à cette période-là et qui ont eu la malchance quelque part d'être quasiment entouré que de gens masqués, en tout cas quand ils sont à l'extérieur. Et ouais, c'est vraiment à eux que je souhaite le plus de courage, quoi.
Tu te réjouis de ce qui arrive là en ce moment, les restrictions sont en train de tomber, dès la semaine prochaine on pourra gentiment penser à enlever les masques. Tu te réjouis des jours à venir, des semaines à venir?
Alors oui, après je pense que je me suis souvent réjouie peut-être un peu vite et j'aurais peur de me réjouir trop vite pour quelque chose qui pourrait ne pas être complètement stable, en tout cas c'est peut-être stable que pendant l'été. Je veux faire peur à personne en disant ça, hein, mais on a déjà dit une première fois que c'était qu'une première vague. Après, on l'a dit une deuxième fois pour cette deuxième vague. Après, il y a eu la troisième vague. Donc, il ne faut pas qu'on ait de quatrième.
C'est quoi les ingrédients dont tu as besoin, toi, Jessie, pour te sentir heureuse et en confiance dans la vie?
C'est de me dire que je suis entourée, d'être dans un lieu apaisant, comme ici au bord de ce lac, et de se dire que ça va aller, tout simplement.
T'es plutôt quelqu'un de confiant. En début d'émission, tu disais parfois j'ai un peu tendance à voir le verre à moitié vide, j'avoue.
Oui, ouais. Mais c'est par période. Globalement, je pense être assez. Arriver à être assez confiante.
À 20 ans, Jessie, est-ce que tu as un rêve, des rêves, des envies fortes?
Peut-être pouvoir découvrir un jour le plaisir de. Je sais pas si je pourrais courir. Mais espérer peut-être un jour arriver à marcher sans aide auxiliaire.
Tu as dû apprendre à marcher, à te tenir debout avec le rollator ou les cannes. Ça a été un long apprentissage?
Oui, très long. Je ne me rappelle pas des passages en rollator parce que c'était vraiment quand j'étais très petite, donc 2-3-4 ans. Mais j'avais vraiment les deux jambes complètement fermées en rotation interne, comme on appelle ça au milieu médical. Et c'était très très dur, bah, comme je disais au tout début, j'ai dû passer par batterie d'examens, de radio, de port d'attelle que je porte actuellement d'ailleurs pour m'aider à avoir un certain équilibre, chose que je n'aurais pas si je ne les avais pas. Donc le rollator, voilà, je pense pouvoir dire que je l'ai depuis toujours. Autant j'ai un certain appui, une certaine sécurité au niveau de mon dos que je ne pourrais pas contrôler à cause des tiges, mais les cannes par contre... On a vraiment l'appui que sur l'avant, absolument rien derrière. Et donc c'est quand même conseillé que j'ai quelqu'un qui n'est plus obligé de me tenir comme au début que j'ai commencé les cannes. J'ai commencé d'ailleurs en même temps que le Covid. Je n'ai plus besoin qu'on me tienne comme à l'époque. Par contre, d'avoir un œil pas loin, ça me rassure grandement et je ne pourrais pas par contre faire de longues distances encore avec.
On voit peu de personnes en situation de handicap dans les livres, dans les séries, au cinéma. C'est relativement rare. Moi-même, je te disais, ben, moi, je ne sais pas très bien, est-ce que je dois faire quelque chose avec ton fauteuil, est-ce que je dois te donner ton verre, etc. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux personnes valides qui ne connaissent pas très bien ce que c'est que de vivre avec cette situation de handicap, comme on dit?
Laissez-la lui dire ce dont elle a besoin, plutôt que de penser à sa place. C'est vraiment important, à mon sens, de se sentir normal, malgré qu'on soit entouré d'appareils ou de machines. C'est pas parce qu'on marche différemment, ou même parce qu'on parle différemment, qu'on n'est pas comme vous. On est simplement différents. Il faut juste avoir de la patience. Se dire que plus on va au rythme de la personne tout en la motivant. Je dis pas qu'il faut se mettre à pleurer avec elle, quoi que ce soit, mais simplement être indulgent. Se dire qu'elle va pouvoir faire ce que vous aimeriez faire avec elle, simplement d'une autre manière ou différemment. Mais on cherche juste à être aussi valide que vous. Avoir sa place partout. Donc des endroits où il y a déjà peu... une adaptation pour les personnes handicapées, même si ça commence simplement par des places de parc, il faut nous les laisser. Vous avez l'opportunité de monter des escaliers, de marcher, de courir. Donc profitez de la chance que vous avez de tenir sur vos jambes. Et voilà.
Merci beaucoup, Jessie, d'avoir partagé tout ça avec moi, avec nous. J'ai une dernière demande, c'est de te prendre en photo. T'es d'accord?
Oui.
Est-ce que tu veux bien me tenir mon micro? Voilà. Je mets ça là. Je te les montre.
D'habitude, je déteste cette prise en photo. Mais
je sens que tu détestes cette prise en photo, moi aussi. Alors par contre, je vais te demander un petit service. Est-ce que tu veux bien... Parce que, du coup, c'est toi qui tiens le micro. faut le tenir comme
je sais pas
ça. Tiens, voilà, tu le tiens comme ça. Je vais toutes te les montrer. Ah, évidemment, c'est des photos prises avec un téléphone portable. Ok, je suis d'accord, elles sont pas de grande qualité. Je suis pas une grande photographe. Mais voilà.
Bon, je m'en fiche hein, personnellement.
Alors, voilà une.
J'aimais bien la première, elle faisait plus naturelle quand même. Peut-être que je souris pas assez.
Alors, te voici, Jessie, avec le lac est magnifique derrière.
Oui, vraiment, ouais.
Tu tiens le micro de RTS ?
Oui.
Bon, tu l'as dit, t'aimes pas trop les photos, hein ?
Non. Mais de savoir que je la fais en tenant un micro que d'habitude je ne vois qu'à travers la télé, c'est un grand honneur.
Qu'est-ce que tu vois ? Comment tu pourras la décrire en quelques mots, cette photo ?
C'est compliqué comme question.
Ah, c'est la torture, hein, cette interview. Je suis navrée.
Une jeune femme qui n'est pas seulement handicapée. Qui a...
Ouais. Un bateau qui passe.
Qui a des envies, des rêves comme tout le monde.
Beaucoup Jessie, j'ai beaucoup aimé faire ta connaissance. Merci pour la confiance d'abord, ta délicatesse et puis ton bon rire. On a écouté pendant ce portrait Big Flo et Oli avec Good Blues, The Weeknd, In Your Eyes, Jennifer avec L'air du vent, la musique du film que tu adores, Pocahontas. On a enfin entendu Neka avec Shining Star. Je t'embrasse bien fort, Jessie, et j'espère que tu passeras un très bel été. Je remercie aussi beaucoup François Piton, qui a choisi les musiques de tous les portraits diffusés, et David Golan, notre réalisateur, pour son écoute fine et sensible. C'était aujourd'hui le dernier épisode de la série Génération Covid, une série de 10 portraits de jeunes que vous pourrez réécouter tout l'été, chers auditrices et auditeurs, le dimanche de 16h à 17h sur la première. Lundi prochain, à cet horaire-là, entre 14h et 15h, vous aurez le plaisir de retrouver la série de Florence Farion, Les Audacieux, en nouvelle diffusion. Et là, tout de suite, précisément, il est 15h sur la première.